Bonjour à tous. Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque, on est heureuse de vous présenter un podcast de sensibilisation aux patients. Donc, moi, je me présente, c'est Mathilde Patenaude et je suis avec Rachel Richard. On est tous les deux résidentes en médecine interne à l'Université de Montréal.
Donc, on vous présente Monsieur Bédard qui va vous raconter son histoire en lien avec l'insuffisance cardiaque.
Bien, merci Rachel et Mathilde, et j'ai bien hâte de vous voir sur le terrain des médecins. écoutez, rapidement, donc moi, mon histoire a commencé en 1980, où est-ce que donc à ce moment-là, j'ai 13 ans et ma sœur a 18 ans. Et ma sœur, qui était une très bonne athlète en badminton, entre autres et en natation, est morte subitement en train de faire son jogging. Alors, elle est décédée d'une cardiopathie hypertrophique. Et c'est comme ça que donc, après une investigation, je me suis ramassé à l'Institut de cardiologie 6 mois plus tard. Alors, j'avais encore 13 ans et on m'a dit, ben, tu as la même maladie qui vient de tuer ta sœur. Et à partir de maintenant, tu vas falloir que tu gères donc ta maladie cardiaque et à chaque fois que tu vas faire un effort, etc., stress, à ce moment-là, on était encore là-dedans sur la cardiopathie, ça va aggraver ta maladie. À 13 ans, tu comprends pas nécessairement la réalité de tout ça, mais c'est en même temps, tu sais, il y a différentes façons de faire de l'insuffisance cardiaque. Et pour moi, ça a pris plusieurs années avant de comprendre c'était quoi le déclic d'insuffisance cardiaque, parce que j'étais quand même en 5e année, 6e année, j'étais super bon pour faire 200 mètres, mais j'étais jamais capable de finir mon 800 mètres en athlétisme. Alors, il y avait déjà des indicateurs qui étaient là, et finalement, ben, j'ai passé mon adolescence, c'est vraiment vers l'âge de 18 ans, on est arrivé à plusieurs symptômes. Là, pour moi, spécifiquement en cardiopathie, ça a avant tout commencé avec de l'arythmie sévère. Alors, de l'arythmie sévère et des blackouts, où est-ce que là, je savais pas pourquoi et je perdais plus ou moins connaissance là, des syncopes là, finalement que je faisais. Et l'insuffisance cardiaque s'est solidement installée là. Mon Dieu, à peu près en 2019, finalement. Fait que j'ai été chanceux parce que j'en ai. Et là, c'est là que ça a commencé. Où est-ce que au début, tu comprends pas trop, puis tu vois pas non plus les enjeux, la différence. Tu sais, ça progresse. L'insuffisance, ça progresse sournoisement. Ça progresse. Dans mon cas, ça progressait tellement lentement que tu t'en rends pas compte, ça s'installe. C'est juste un moment donné où est-ce que finalement tu réalises que tu commences à être limité. Et là, ben moi, ça a été une chance que j'avais un bon suivi médical, là. Mais ça a été donc j'avais déjà des enfants, alors l'incapacité à jouer avec mes enfants, l'incapacité à marcher avec mes enfants, fatigue. Je dormais 16, 12 heures, surtout dans les derniers mois, là, à 16 de 18 heures par jour. Et puis, il y a plein de choses qui viennent finalement qui viennent modifier tes habitudes de vie. Puis là, à ce moment-là, moi, ce qui a été particulier, c'est que là, donc en 1999, très précisément, je me suis fait dire, Monsieur Bédard, on va vous mettre sur une liste de transplantation parce que j'étais vraiment, mon insuffisance était énorme, puis j'étais même rendu en bas de 15% de fraction d'éjection. Alors, tout était un marathon pour moi. Fait que ça a été difficile, puis surtout que j'avais des enfants. Donc, perte de travail, arrêt de travailler, incapacité à faire des tâches ménagères de base, inquiétude pour les enfants, être obligé d'acheter, de louer, là, je veux dire, une alerte, un bouton alerte là, à ce moment-là, là, pour que si je suis inconfortable ou j'ai des problèmes ou je tombe, ben, je peux avoir des secours parce qu'on pouvait plus nécessairement me laisser chez nous. Donc, ça s'est installé. Puis, les symptômes aussi sont venus avec ça. Donc, eau sur les poumons, œdème pulmonaire que là, je sentais. Alors, le bon vieux bruit de ce que je dis, c'est que si vous voulez savoir pour les étudiants en médecine, c'est quoi le bruit de l'insuffisance cardiaque dans un stéthoscope? C'est comme quand tu prends une paille dans le fond d'un verre, là, ça fait un petit crépitement, là, un verre vide, là. Alors, c'est encore ça. Je me souviens très bien. Je sais c'est quoi la sensation de le faire, de le vivre. Et c'est aussi de vivre avec tous les médicaments, donc, qui, un, m'étourdissaient, les diurétiques en quantité, le poids qui augmente avec des crises. Puis l'insuffisance aussi, c'est que c'est jamais pareil. Deux jours bien, fait que là, le troisième jour, tu dis « Yes! » Je vais faire des betteraves et de la sauce à spaghetti pour toute la famille. Et le lendemain, tu tombes. Donc, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Puis, c'était d'essayer de dealer avec tout ça. Là. Fait que je viens de vous résumer plus ou moins ça. Et je m'en suis sorti une fois. J'ai eu une transplantation. Et ce qui a été particulier dans mon cas, c'est que des années après, je suis revenu encore avec l'artérosténose et le GVHD, le graft versus host disease, donc un rejet chronique. Et je suis reparti encore en insuffisance cardiaque. Alors, c'est comme si je me ressentais, je disais à une des cardiologues de l'Institut, Annick Duchamp, j'ai dit, c'est comme si je retourne dans une maison que je n'ai pas le goût de retourner. Tu sais. Alors, je savais encore, mais il y avait de l'éducation, j'étais comme habitué, alors c'était de revivre avec ça. Fait que je viens de vous présenter, là, mettre le topo, puis là, je veux entendre vos questions aussi, là, puis si vous avez des spécificités. Là.
Dans tout ça, là, M. Bédard, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, finalement?
C'est de savoir comment que ça commence et de ne pas savoir comment que ça va finir.
Mm-hmm.
Et la perte de capacité, quand tu la vois arriver, puis là, je t'ai rendu vraiment dans les heures et jours avant la transplantation. On m'avait même parlé d'un cœur mécanique là. À ce moment-là, c'était encore le Jarvik. Là. Pour moi, c'était l'impuissance. Et aussi, de plus être, avait fallu que je me conditionne donc à me dire, tu fais une chose par jour, pas plus, et tu essaies de la faire, puis si tu n'es pas capable de la faire, l'acceptation aussi de tout ça, c'est difficile, tu deviens frustré. Moi, je venais frustré de ne pas être capable, j'étais quand même jeune, là, j'avais 30 ans, à 32 ans, c'est pas normal aussi. Alors, et dans la deuxième transplantation, c'est aussi de voir encore une fois que je revenais dans la même chose, puis que là, me voir tranquillement faire le deuil de plusieurs choses qu'on faisait normalement avant et que là, on n'est plus capable de le faire. Pour moi, ça a été ça, je pense, la plus difficile, puis voir mes enfants, puis d'être incapable de les suivre, puis de les élever comme j'aurais voulu, puis de faire ce que je voulais avec. Ça a été, pour moi, ça a été plus difficile.
Mm-hmm. Étant donné que vous parlez de vos enfants, là, on aimerait savoir quel était, selon vous, l'impact sur votre famille, sur l'entourage en général là, de votre insuffisance cardiaque?
Mm-hmm. C'est le fun de savoir ça, parce qu'il ne faut jamais diminuer ça. Moi, je pense que c'est énorme. Et encore aujourd'hui, mes enfants sont grands maintenant. J'en ai cinq garçons de 20 ans jusqu'à 30 ans. Et encore aujourd'hui, en fin de semaine, je les voyais justement. Puis, tu sais, ils disent, mon Dieu, tu sais, le plus vieux se souvient que je dormais tout le temps. L'autre se souvenait que j'y avais appris. C'est pas normal qu'à 5 et 8 ans, là, je pense que j'avais appris à mes enfants, écoute, si je marche, puis papa tombe... pour X raisons, même si j'avais un défibrillateur pour me backer, là, on se comprend, ben faut que tu ailles voir quelqu'un puis dise que ton papa a besoin d'aide. C'est pas normal, ça. T'sais, c'est pas normal. À 5 ans puis 8 ans, on les apprend à pas parler à des étrangers, mais moi, il a fallu que j'aille sensibiliser mes enfants pour leur dire, si papa a un problème, faut que tu ailles chercher de l'aide. Alors, ça a beaucoup d'impact, puis ça reste encore sur la famille et les proches aidants aussi, tu sais, ils vivent tout ça, ils sont là aussi pour nous aider, ils vivent les inconforts et souvent, malheureusement, je trouve qu'on centralise beaucoup l'énergie sur le patient, mais il faudrait en passer autant sur le proche aidant parce que lui aussi, il peut être affecté par ça, mais aussi il peut être un support essentiel en médecine pour la personne qui a l'insuffisance cardiaque.
Mm-hmm. Je vois que vos proches, tout au long de votre maladie, vous ont quand même aidé beaucoup. Est-ce qu'il y a une chose qu'ils ont pu faire qui vous a aidé particulièrement ou qu'est-ce qui vous a aidé le plus là, de les avoir près de vous dans votre parcours?
Moi, c'est juste d'être là. Mm-hmm. C'est juste d'être là. Moi, ça a été, bon, la première transplantation, ça a été un challenge très physique pour moi. Là, tu sais, j'avais été un an et demi immobilisé en insuffisance cardiaque, alors j'avais tout à réapprendre, là, marcher, courir, respirer. Alors, c'est juste, moi, c'est juste la présence, l'écoute, je pense, qui est là. Donner des petits coups de pouce. Ça, c'est moi. pas trop essayer non plus de tout faire puis de tout enlever parce que là, ça devient frustrant de dire, tu sais, fait que, mais pour moi, c'est d'être là. La présence, la compassion, l'accompagnement, et aussi de pas trop d'en faire pour qu'eux autres aussi s'épuisent parce que là, ça devient, pour moi, ça devenait frustrant de voir ma femme puis les enfants s'épuiser pour moi puis dire non, faites-en pas trop. Tu sais, il y a une culpabilité qui embarquait pour moi aussi là-dedans.
Peut-être un peu par un autre, ouais, dans une autre direction, là. On aimerait savoir un peu si vous pourriez parler brièvement de quel est votre traitement actuel, là, un peu pour les patients puis les familles là, de patients, mm-hmm, qui vont nous écouter pendant ce podcast.
Ben écoutez, maintenant, mon traitement, donc je suis à 2 transplantations cardiaques. Alors, je suis, j'ose dire, en forme. Très, 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 très. Alors, j'ai passé à travers les 2 transplantations. Ça là, il y a des challenges. C'est pas a walk in the park, comme disait ça et comme disait Dr. Guy Pelletier, que j'ai tout le temps adoré. Il dit, tu sais, sinon, on t'a changé de maladie pour une autre. Tu viens, faisais une insuffisance maintenant. Alors, c'est, si je peux donner de l'espoir aux gens qui attendent après une greffe ou que de tout ça, il y a vraiment un espoir. Puis écoutez, j'ai une vie pas mal normal, là. C'est sûr que là, on a le COVID. Il n'y a pas personne que la normalité n'est plus normale, là. Mais voilà. Sinon, les médicaments, pendant les 2 périodes d'insuffisance, j'étais vraiment sur le Lasix, là. On avait aussi beaucoup de médicaments. Ce qui était bizarre, c'est l'insuffisance, mais aussi on essayait de diminuer mon rythme cardiaque pour ralentir la progression de la maladie. Alors, j'ai pogné des petits trucs, là. T'sais, c'est diurétique, là. Un truc, là. Si vous savez que vous en allez, donc je reste à Longueuil. Si tu prends ton, et tu travailles à Montréal, alors si tu prends ton Lasix avant de partir sur le Pont-Jacques-Cartier et tu pognes le trafic avec du Lasix dans le corps, ben, c'est assez difficile de se retenir. Alors, il y a des trucs de même, c'est des niaiseries, mais il y a des trucs où est-ce que tu dois apprendre à gérer, un, tes liquides. Là, je sais que ça change un petit peu, mais tu dois apprendre à changer, à gérer tes liquides, mais aussi à le faire dans la vie de tous les jours. Comment je vais être dans une rencontre, si je suis encore en insuffisance ou si je vais faire des courses, où est-ce que sont les toilettes. Il y a plein de choses comme ça. Comment je vais être capable de me rendre à bouche de métro, est-ce que je suis capable de me rendre pour marcher ou je dois prendre un taxi pour me rendre parce que je suis plus capable. Puis éventuellement, ben, c'est d'apprendre aussi à demander à des amis puis de dire, écoute, j'ai pas la force aujourd'hui de le faire. Tu peux-tu aller chercher du lait ou peux-tu aller porter tes enfants à l'école? C'est aussi arrivé des choses comme ça. Mais c'est sûr que c'est une éducation. Et moi, je disais, le fameux docteur Jean Rouleau, j'ai dit, tu sais, l'insuffisance cardiaque, c'est pas juste une maladie, c'est un mode de vie. Alors, où est-ce que ça change la vie? Il faut que tu adaptes ça. Et si tu te bats contre ça, ben c'est un peu difficile. Voilà.
Vous avez parlé un peu de vos hospitalisations, là, donc 2 greffes cardiaques. J'imagine que vous avez eu plus que 2 séjours à l'hôpital. Là. La prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire les médecins, mais aussi tout le reste du personnel, infirmières, pharmaciens, physio, ergo, etc. Comment vous voyez ça, puis comment ça a pu vous aider tout au long de votre cheminement?
Ben moi, je pense, on parle beaucoup du médecin, du rôle du médecin, mais les infirmières, j'en ai vu, tu sais, la réalité, c'est qu'un patient vit avec l'insuffisance cardiaque, c'est 8000 quelques cents heures par année, mais la réalité, c'est qu'on voit peut-être 5 ou 10 heures par année un cardiologue ou un spécialiste de la santé. Alors, faut qu'on gère ça aussi par nous autres. En tout cas, moi, je dis, je fais ma part aussi là-dedans. Je suis pas nécessairement occupez-vous de moi, puis moi, je fais rien. Donc, je vais être parti. Mais c'est aussi toute l'interdisciplinarité. Je pense que le rôle de chacun, pour moi, est important. Où est-ce que tu vas chercher l'approche des soins avec l'infirmière ou comment, je sais pas, là, moi, je me souviens des infirmières, là, c'était bon. M'apprendre à pas trop boire d'eau. À ce moment-là, il y avait on était sur une limite liquide, là, tout ça. Alors, Sylvain, tu dois faire ça. Le médecin qui me disait, OK, voici comment gérer ton Lasix. Ensuite, j'avais le pharmacien qui s'implique. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une multidisciplinarité et je vais rajouter aussi d'avoir une très bonne communication avec ces gens-là. Alors, Et je reviens, là, je travaille maintenant en partenariat patient, là, mais c'est pour moi, c'est que on fait une décision commune, bien informée, et comme ça, c'est sûr que si je comprends mieux pourquoi j'ai de l'eau sur les poumons, Ben, pour moi, je vais beaucoup mieux comprendre pourquoi je dois faire attention à mes diètes, je dois respecter ma limite liquide. Si je ne la comprends pas, c'est difficile. Fait que pour moi, c'est vraiment important, toute une belle communication puis de travailler ensemble, même si des fois, c'est des intervenants qu'on voit séparés, essayer de faire une globalité pour qu'on puisse être mieux capable à gérer tout ça ensemble et pour une meilleure qualité de vie en espérant et améliorer au moins la qualité de vie si c'est pour une meilleure qualité de vie. Voilà.
Vous qui avez côtoyé quand même beaucoup de médecins là, à travers votre parcours, là, que ce soit cardiologue ou tout autre professionnel, là, auriez-vous un message précis de sensibilisation à adresser aux professionnels de la santé, cardiologues, même médecins de famille là, qui ont quand même font face à l'insuffisance cardiaque de temps en temps?
Ben, aux médecins de famille, moi, pour moi, c'est de ne jamais diminuer les symptômes de l'insuffisance et pas partir non plus à dire « Ah, il est trop jeune pour l'insuffisance. » Alors, je le dis parce que ma sœur avait consulté 3 semaines avant de décéder. Alors, elle avait clairement, à cette heure qu'on sait, des symptômes d'insuffisance, puis elle avait 18 ans, elle est trop jeune. Non, alors, il y a ça. Et sinon, je pense que toute l'importance de la transparence, de l'éducation et de l'écoute du patient. Tu sais, si je veux bien manager tout ça, ben informez-moi, puis comme ça, je vais mieux le gérer. Puis j'ai certaines expériences de ces drôles quand tu t'assures aussi que d'avoir une bonne information et d'avoir les bonnes informations quand tu reçois les bonnes informations du clinicien ou peu importe le spécialiste en santé, tu sors pas pour aller voir sur Google qu'est-ce qu'il en dit là. Pour moi, je suis pas un Google, je vais pas voir souvent le docteur Google parce que je m'assure quand je sors. Et je sais qu'à cette heure, il y a beaucoup de médecins, là, je les adore, là, qui nous emmènent vers là. Alors, plus on a d'informations, je sais que des fois, ça prend moins de temps, mais je vous garantirais que probablement qu'on rentre moins souvent à l'urgence parce qu'on a malgré nos médicaments, parce qu'on a compris. Fait que pour moi, c'est vraiment l'information, la transparence, créer une relation de confiance qui fait que ça me tente de m'embarquer. J'aimerais un jour que quand tu débarques chez un cardiologue ou n'importe qui, le cardiologue me pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour changer, pour améliorer votre qualité de vie? Et à ce moment-là, c'est dans les deux sens. Fait que moi, je vais me sentir obligé de le faire. Ben, en tout cas, moi, je ne sais pas si les autres vont le faire, mais voilà.
C'est beau à entendre, en tout cas. Mm-hmm. Puis, j'en prends bonne note. Sinon, là, on a parlé des professionnels de la santé, mais si on parle un peu plus de la population en général, est-ce que vous aviez un message ou un message de sensibilisation à faire plus à la population en gros? Là?
Mm-hmm. Moi, je pense, bon, il y a certainement les bonnes habitudes de vie, alimentaire, l'exercice. Maintenant, as-tu vu même, là, il y a des programmes, tu es en insuffisance cardiaque, mais n'arrête pas de faire l'exercice parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, je fais de l'insuffisance ». Je ferai plus d'exercice, au contraire. Mais je pense que pour la population, c'est vraiment d'être à l'écoute de leur corps, essayer aussi de respecter ça et sinon aller chercher des ressources ou de l'information. C'est quoi l'insuffisance? C'est pour les gens qui ne le savent pas encore. Essayer d'éviter le déni, hein? Essayer de repousser tout le temps la décision plus tard. Le pire qui peut vous arriver, c'est qu'ils disent il n'y a pas d'insuffisance, ça va bien aller. Et que ça soit un bon diagnostic. Mais moi, pour moi, je pense que globalement, la population, on sait qu'il y a beaucoup de... je pense qu'on est rendu à 650 000 Canadiens qui font de l'insuffisance cardiaque. Je vais aussi le dire pour les femmes, il y en a beaucoup. Alors oui, il y a plus de femmes qui meurent de maladies cardiaques que de femmes qui meurent du cancer du sein. Alors, on se met là-dedans, on parle tout le temps du cancer du sein, mais je veux que les gens se sentent sensibilisés à ça, qu'ils portent une attention à tout ça. Puis moi, sinon, ben, ce que je sais, c'est qu'il y a des nouveaux médicaments d'insuffisance cardiaque qui sont extraordinaires. Heureusement ou malheureusement, heureusement, j'ai pas à les prendre. Malheureusement, ils n'existaient pas quand j'étais là. Mais il y a beaucoup de nouveaux traitements aussi qui ont avancé, qui donnent aussi un peu beaucoup plus d'espoir, puis ils donnent des meilleures qualités de vie pour les patients. Puis je pense qu'il faut regarder ça aussi. La vie n'arrête pas avec l'insuffisance cardiaque. C'est juste un nouveau mode de vie.
Un peu pour conclure là, notre podcast, on se demandait ce que vous retenez de positif de votre parcours, mais aussi comment vous voyez un peu votre futur avec l'insuffisance cardiaque.
Moi, ce que je retiens de mon parcours globalement, c'est le partenariat, la collaboration, les relations que j'ai développées avec mes cliniciens et pour qu'on puisse arriver ou réussir à un bon traitement, des bons choix. Je pense que j'ai eu la chance, là, il y a bien des gens qui vont dans le critique sur le système de santé. Moi, j'ai eu la chance, je pense, je dis pas que j'en ai jamais rencontré, mais de rencontrer des bons cliniciens et d'avoir des belles expériences de soins qui me donnaient de l'espoir, puis qui m'ont, même si des fois c'était complètement désespérant. Alors, pour moi, je pense que ça reste, et sinon, ben, je vais revenir un peu sur le parcours, là. Le parcours, qu'est-ce qui reste de moins en moins, j'ai peur, parce que je me dis, si un jour je retourne en insuffisance, c'est pas que je veux y retourner, là. OK? Mais je vois qu'il y a beaucoup d'avancement. Et pour moi, donc, j'ai arrêté d'attendre l'insuffisance. Je vis pleinement ça. Vous pouvez, en tout cas, le monde qui sont autour de moi, il dit, il n'y a rien qui l'arrête, là. Je vis pleinement et je profite du moment qui est là. Et surtout, je suis content parce que ça me permet aussi de voir mes enfants grandir, là. Alors, 5 grands garçons et de vivre tout ce que j'ai à vivre avec présentement.
Bien, merci beaucoup, M. Bédard. C'était vraiment inspirant là, tout ce que vous avez pu nous parler ce soir, malgré votre parcours difficile. En tout cas, je retire là, que vous êtes capable de voir le positif là-dedans, puis qu'il y a de l'espoir malgré tout. On est vraiment reconnaissant d'avoir pu vous parler ce soir.
Bien, merci à vous deux. C'est super sympathique et je vous souhaite un grand avenir en médecine. Et merci. J'espère que vous allez tous devenir cardiologues.